tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Alors ce soir, nous poursuivons avec un autre cas qui malheureusement est aussi triste que les autres, aussi déplorable également. Donc une autre femme victime de la perversion narcissique des hommes. Évidemment, c'est pas tous les hommes qui en arrivent jusque-là, heureusement, parce que ça irait pas bien. Mais malheureusement, il y a un certain type d'hommes qui, quand ils sont en couple, du moins, à un moment donné, perdent les pédales pour X raisons. Il y a sûrement, évidemment ici, je vous donne beaucoup de détails, mais on n'a pas tous les détails pour avoir un profil psychologique complet, évidemment. Pour pouvoir étudier ça convenablement, il faudrait avoir accès à tous les détails de la scène de crime et des circonstances aussi qui ont mené au crime et également pouvoir faire un profil du tueur, un profil psychologique. Donc, s'il y a eu des études là-dessus, des observations alors qu'ils étaient en prison ou avant ou pendant le procès, des fois ce sont des détails qui sortent lors des procès. Mais alors voilà, on va enchaîner ce soir pour vous démontrer encore que des féminicides, il y en a eu et il y en aura encore. Et ce soir, on se transporte au 9 mars 1931. La victime s'appelait Cécile Mondor. Elle avait 24 ans. Et ça s'est passé à Montréal, encore une fois. Cécile Mondor habitait un logement de l'immeuble 931 Est, rue Montmagny, à Montréal. C'est un immeuble qui appartenait à une certaine Mademoiselle Madeleine Bocage. Je ne veux pas partir de rumeurs, mais ça pourrait être... Bon, c'est peut-être juste un immeuble à logement, rien de plus. Et son conjoint s'appelait Paul-Henri Warren. Il n'y a rien qui indique qu'ils étaient mariés. Donc, voilà, c'est un autre cas peut-être dans un milieu pas criminalisé, mais un milieu, disons, qui sort un peu de l'ordinaire pour cette époque-là. 1931, on s'entend que si on n'était pas marié, puis on se fréquentait, c'était mal vu, comme on dit, là. Aujourd'hui, eh bien, voilà, on est vraiment ailleurs à ce moment-là. Et, bon, ben, c'est justement dans ce logement-là, donc chez elle, encore une fois, vous aurez constaté que la victime est décédée chez elle, elle a été agressée chez elle. Donc, c'est là qu'elle a été retrouvée morte. Et une autre tendance qui semble se dessiner. À l'arrivée des policiers, Paul-Henri Warren a été arrêté sur place sans le moindre incident. Lui, il s'est pas débattu, rien de ça. Donc, c'est un autre cas où le conjoint, finalement, est désemparé. Puis, après avoir commis son crime, il reste sur place. Certains vont fuir, mais des fois pas très loin. Mais lui, il est resté sur place et quand les policiers sont arrivés, ils ont vu que dans sa main gauche, il tenait 9 $ et dans sa main droite, un canif ensanglanté. C'était l'arme du crime. Et tout de suite, là, il a admis son crime. Donc, il est passé aux aveux sans aucun problème. À l'époque, le quotidien La Presse avait appris que Warren avait séjourné à l'asile Saint-Jean-de-Dieu. Et c'est assez précis, donc on avait même les dates. Donc, il avait été interné du 7 janvier 1927 jusqu'au 13 février 1928. Et une deuxième fois aussi, du 9 août 1928 jusqu'au 18 mai 1929. Donc, ça laisse sous-entendre quelque chose de louche du côté de la boîte à poux. Entre les deux oreilles, ça allait pas bien. Lors de cette dernière date, justement, on l'avait libéré sous congé d'essai. Et ici, je le dis sous guillemets, là, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps. Donc, congé d'essai, est-ce que c'était comme une genre de libération probatoire ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais bon, là, évidemment, on parle de libération, d'un congé par rapport aux institutions psychiatriques et non pas des prisons. Et au moment d'assassiner sa conjointe, donc Cécile Mondor, La police le soupçonnait aussi d'être un témoin important dans une cause de hold-up qui impliquait quatre bandits, dont Sam Behan, Maurice Weinbaum, Jack Miller et Leopold Warren. Un autre Warren, est-ce que c'était son frère ou un membre de sa parenté? Je l'ignore, malheureusement. Les journaux ont aussi souligné qu'il était infirme. Donc, il souffrait d'une infirmité quelconque, mais malheureusement, on n'a pas précisé laquelle. Quant à l'autopsie pratiquée sur le corps de Cécile Mondor, on a attribué la mort à deux groupes de blessures. Donc, et toutes ces blessures-là étaient considérées comme mortelles. Donc, Warren, il n'a pas manqué son coup, comme on pourrait le dire en bon québécois. La victime portait donc trois marques de coups de canif à la poitrine. Donc, canif, c'est quand même... le mot peut faire sourire, mais c'est quand même une lame. Et bon, on n'a pas besoin d'une lame très longue pour assassiner quelqu'un. Et surtout quand la lame est aiguisée, ça cause beaucoup de dommages. Et ici, justement, la lame avait quand même atteint un des poumons. Et sa gorge aussi portait des marques de strangulation manuelle. Donc, il y a deux façons encore ici, deux méthodes pour en arriver au meurtre. Donc, ça souligne, je pense, la détermination du tueur. C'est ça. Lors de l'enquête du coroner, la propriétaire de l'immeuble, donc Madeleine Bocage, a raconté, elle, qu'elle connaissait le couple Mondor-Warren depuis juin 1930, donc ça faisait quand même un peu plus d'un an, mais elle ne le fréquentait pas vraiment, donc elle les connaissait de vue, comme on dit, mais sans plus. Mais dernièrement, à cause d'un salaire de misère, comme on dit, Warren avait décidé de prendre une chambre plus petite. Donc, est-ce qu'il avait perdu récemment son emploi? Ça aurait pu être... un élément déclencheur dans cette affaire-là. Voilà un signe de des fois qu'on perd patience ou qu'on perd la boule. Donc voilà, on déconnecte un petit peu avec la réalité quand on est sous le choc d'une nouvelle. Donc dans un deuil, par exemple, une grande perte financière aussi, une séparation. Donc ce sont les principaux éléments là, qui peuvent déclencher ce genre d'affaire-là. Et un petit fait étrange, le soir même du meurtre, donc juste un petit peu avant, mademoiselle Bocage, pardon, avait demandé, donc elle était allée voir elle, le couple, et elle avait demandé à Cécile si tout allait bien, et même à trois reprises. Et à ce moment-là, bizarrement, Warren y avait répondu par une question étrange, et cette question était celle-ci: « A-t-on passé les vidanges ce matin? » Je vois pas vraiment le rapport, mais je pense qu'il commençait peut-être à délirer ou à tomber à côté de la traque. Alors, notre bonhomme a été, en octobre 1931, il a été jugé inapte à subir son procès. Dans les conditions du temps, on espérait pouvoir le remettre, évidemment, sur le banc des accusés une fois qu'il serait guéri. Mais on pense que finalement, en tout cas, les journaux n'ont laissé aucune trace d'une quelconque poursuite là, dans les années qui ont suivi. Donc, on perd sa trace. Alors, probablement, est-ce qu'il a fini en asile ou il est retourné dans sa famille complètement fou? On ne sait pas. C'est le mystère complet là-dessus. Mais bref, ce qu'il faut retenir... c'est qu'on a affaire ici à un autre homicide par un conjoint non suicidaire et par deux moyens utilisés, donc la strangulation et l'arme blanche. L'année suivante, le 23 mai 1932, cette fois-ci, c'est une femme de 47 ans, Cordelia Ouimet, qui a été assassinée par un conjoint suicidaire. Et sans surprise, comme vous apprenez probablement à l'apprendre avec mes balados, les conjoints suicidaires, qu'est-ce qu'ils font dans la plupart des cas? C'est qu'ils utilisent une arme à feu. Alors celui-ci n'a pas fait exception. Et quand je dis celui-ci, bien, il s'appelait Aimé Aymard. Il avait 49 ans, donc sensiblement le même âge que son épouse. Le drame s'est passé à Saint-Chrysostome, près de Montréal. Ce qu'on sait de ce drame-là, c'est que le couple habitait à Saint-Chrysostome depuis 2 ans avec leurs 9 enfants. C'était quand même une grosse famille et ça faisait pas exception parce qu'à cette époque-là, 9 enfants, c'était peut-être pas la moyenne, mais c'était quand même courant. Si on veut, dans ces années-là, il y a 2 familles qui étaient en train de se former, c'est-à-dire celle du côté de mon père et de ma mère, et les deux familles en question devaient aboutir avec 8 enfants chacune. Ce qui est triste dans cette affaire-là, c'est que selon le témoignage d'un enfant, d'un des 9 enfants de la famille, lui, il était assis à la table de la cuisine quand la dispute a éclaté entre ses parents, donc le 23 mai 1932. Et soudainement, il a vu toute l'action finalement. Et quand est mort, donc son père s'est emparé d'un fusil et a tiré sur sa mère à bout portant. Selon le quotidien Le Soleil, est mort l'aurait d'abord battu avec une chaise. Aïe aïe. Donc, ça se serait passé probablement pas juste en un seul acte, comme on dirait au théâtre. Donc, il l'aurait avant battu avec... C'est quand même très, très, très violent. On imagine la scène et l'enfant qui a dû être traumatisé pour le restant de ses jours. Donc, on dit justement que l'enfant qui était là, lui, s'est précipité quand il a vu que ça tournait mal. Il s'est sauvé à l'extérieur de la maison. Et à l'arrivée des premiers policiers, Aimé est mort, c'est bizarre comme nom, mais quand même, qui était forgeron de son métier, était déjà étendu sur le lit, un fusil entre les mains et avec une blessure mortelle à la poitrine. Donc, il s'était tiré, il avait retourné l'arme contre lui, et malgré le fait que ça semble être un fusil ou une carabine, il s'est tiré en pleine poitrine et non pas sous la gorge. De son côté, Le Soleil a plutôt mentionné que l'arme se trouvait à ses pieds. Mais bref, on aura compris que l'arme était présente sur la scène de crime. Et bon, bref, du côté de sa femme, elle gisait dans une mare de sang sur le plancher de la cuisine. Elle avait même eu 2 doigts coupés par le coup de feu qui l'avait atteint en pleine poitrine, elle aussi. Et comme vous l'aurez compris, ben ce drame a fait 9 orphelins d'un seul coup. Vers la fin de l'année 1932, c'est à Shawinigan cette fois que se produit un autre homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Mais il faudra prêter attention à ce cas-ci parce que comme certains autres qu'on a vus, il faut faire attention, ce qui est important, c'est la motivation du tueur, donc à quoi il pensait initialement quand il a préparé son crime, donc c'est-à-dire qu'il voulait se débarrasser de sa conjointe et non pas du résultat de son crime, parce qu'on va voir pourquoi. Donc, au matin du 3 novembre 1932, Hilda Blais, un garçon de 24 ans, a acheté un pistolet de marque Savage de calibre 32 et des cartouches pour la somme de 15$. Encore une fois, on voit que l'inflation continue son œuvre. Les prix montent pour les armes de poing. Un peu après 18h, c'est sur la 4e rue entre les rues Mercier et Tamarack à Shawinigan que son père Adélard l'a retrouvé. Parce que là, il faut dire que c'est un cas complexe. J'ai consulté le dossier judiciaire dans ce cas-là. J'ai lu l'ensemble du procès et, bon, bref, je donnerai pas tous les détails. On s'en sortira pas. Mais, principalement, ses parents avaient quitté la Shawinigan pour la journée. Et à son retour, il avait demandé à son fils de collecter les loyers. Et quand il est revenu, il s'est douté de quelque chose parce que son fils n'avait pas collecté les loyers. Il avait pas fait sa job. Alors, M. Blais s'est mis à la recherche de son fils en soupçonnant quelque chose. On dit pas qu'il se soupçonnait de ce qu'il allait se produire précisément, mais probablement qu'il connaissait son fils d'une certaine façon. Donc, il était plutôt bien placé. Et ce qu'on va apprendre par la suite, c'est que Hilda Blais avait fait de la prison. Et justement, c'est ça, il avait été incarcéré un certain temps à Saint-Vincent-de-Paul, dans la région de Montréal, Et sa petite amie avait cassé avec lui, donc elle avait mis un terme à leur relation, justement parce que récemment, elle venait d'apprendre qu'il avait fait de la prison. Donc, on présume qu'il lui avait caché cet épisode-là de sa vie. Alors, lui, il dashblait en achetant le fameux pistolet. Lui, ce qu'il voulait, c'était retrouver Valéda Lafontaine, donc sa petite amie, et la tuer. Et quand il tombe sur son père, bizarrement, au coin des rues Mercier et Tamarack, Hilda Blais tombe en même temps sur Valéda Lafontaine. Donc, les trois personnages se retrouvent coincés en un seul lieu, si on veut. Et ça n'a pas. Quand il a vu son père arriver, ça n'a pas arrêté Hilda Blais dans l'idée qu'il s'était fait là, du crime qu'il voulait commettre ce jour-là. Donc, il a quand même sorti son pistolet et il s'est mis à tirer sur Valéda Lafontaine, qui s'est écroulée tout de suite. Mais par contre, elle n'est pas morte sur le coup. Aussitôt, en voyant cela, ben évidemment, Adélard Blais a sauté sur son fils. Et là, il y a une lutte qui s'est engagée entre le père et le fils pour... évidemment, le père voulait désarmer son fils meurtrier. Il n'était pas encore meurtrier parce qu'il n'y avait pas de mort. Mais quand même, là, il y avait l'instinct meurtrier, pas à peu près. Là. Il venait de prouver finalement son intention criminelle en tirant sur Valéda. Et au cours de cette lutte, Adélard réussit à le désarmer, mais il y a au moins un coup de feu qui a été tiré et qui a atteint Adélard, malheureusement, au milieu de cette échauffourée-là. Et Hilda Blais, la première réaction qu'il a, c'est de fuir les lieux, mais sans trop se presser, étonnamment. Mais Adélard Blais, évidemment, vu qu'il est touché, ben lui, il a pas pu courir après lui. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est assis calmement, mais pour reprendre son souffle. Mais voilà, il était assez gravement blessé. Ce qui est aussi particulier dans cette affaire-là, c'est que l'enquête préliminaire qui a été tenue le 18 novembre a permis d'entendre les deux blessés sur leur lit d'hôpital, parce que Adélard Blais, donc le père du tireur, et Valéda Lafontaine, donc la petite amie, la conjointe de Hilda Blais, n'étaient pas encore décédés. Donc, ils ont pu témoigner de leur lit d'hôpital directement. À l'époque, ce qu'on faisait, c'est que la cour se déplaçait, donc les principaux membres du tribunal, le juge, les avocats et tout ça, puis on allait entendre les témoins directement sur leur lit d'hôpital. Évidemment, vous aurez compris que c'était une accusation de tentative de meurtre. Il n'y avait pas de meurtre encore parce que personne n'était décédé. Mais... toutefois, on savait déjà ou on se doutait fortement que Valéda resterait paralysée pour le restant de ses jours en raison des coups de feu qu'elle avait reçus. Et bon, on se doute aussi, Adélard Blais a refusé d'incriminer son fils dans son témoignage. Il essayait de le défendre le plus possible, mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que le 10 décembre, donc... un peu moins d'un mois après l'enquête préliminaire, eh bien, Adélard Blais est décédé, donc l'affaire est devenue automatiquement une affaire de meurtre. Et à l'automne de 1933, le premier procès de Blais a avorté en raison de l'état de santé de l'un des jurés. Ça allait pas bien. Donc, on a repris tout de suite le procès. Et ce deuxième procès s'est tenu immédiatement après. Et il s'est soldé par une condamnation à mort. Donc voilà, pour meurtre à cette époque-là, la condamnation automatique, c'était la peine de mort. Le 18 mai 1934, Hilda Blais, qui avait atteint à ce moment-là ses 26 ans, a été le septième et dernier pendu dans l'enceinte de la vieille prison de Trois-Rivières. Donc si vous visitez la prison de Trois-Rivières, qui est ouverte maintenant au public et qui se fait une fierté de raconter certaines anecdotes, ben là, vous en avez déjà une. Et c'est un cas de féminicide. Et oui, même si Valéda a survécu à cette agression-là, c'est quand même l'intention criminelle, la motivation initiale, de Hilda Blais, c'était de la tuer elle, donc il voulait se venger du fait qu'elle l'avait laissée. Alors, voilà, encore une fois, un homme qui ne sait pas aimer de la bonne façon. Le 7 octobre 1933, c'est une dénommée Marianne Tremblay, 34 ans, qui a été victime d'un conjoint suicidaire. Cette fois-ci, ça se passait à Latuc, dans le nord de la Mauricie. Et le moyen de la tuer, c'est par strangulation au lien. Donc, dans ce cas-ci, le meurtrier Paul-Maurice Carignan a utilisé un cordon électrique. On dit qu'ils habitaient, le couple Marianne Tremblay et Paul-Maurice Carignan, Corrigan, habitaient un appartement dans l'immeuble Lamotte, situé à l'intersection des rues commerciales et Saint-Joseph à Latuc. Donc, pour les habitants de Latuc, je vous salue et vous allez savoir probablement à quel endroit précisément le drame s'est déroulé en 1933. Donc, au rez-de-chaussée se trouvait un restaurant administré aussi par Marianne. Donc, elle s'occupait d'un restaurant. Et ce qu'on sait du drame, c'est que vers 11h30 au matin du samedi 7 octobre, Corrigan s'est lui-même livré aux policiers en leur disant qu'il venait de tuer sa femme. Voyez-vous, un autre cas similaire d'un conjoint qui, après avoir fait commis son crime, se rend aux policiers et raconte tout. D'après ce qu'il a été dit à l'enquête du coroner, aussi, on apprend que Corrigan était couché sur un canapé lorsqu'il s'est levé soudainement pour se précipiter vers sa femme qui était dans la cuisine. Donc, c'est comme s'il avait pété une coche. On ne sait pas trop pourquoi il s'est levé soudainement et qu'il s'en est pris à elle. Et il l'a saisi à la gorge jusqu'à ce qu'elle tombe par terre. Ensuite, il a pris un fil de fer à repasser et il l'a enroulé autour du cou de Marianne. Juste après, il se rendait à la police. Donc, on dit que c'est par un conjoint suicidaire. Pourquoi? Eh bien, c'est assez simple. C'est parce que Corrigan a été retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Québec le 6 février 1934. Le 26 avril 1933, cette fois-ci, c'est Marianne Webster Lepage, 30 ans, qui a été victime d'un conjoint non suicidaire. Ça se passait à Québec et dans l'appartement, pour être plus précis, là, donc à l'adresse du 374 rue Saint-Joseph. Elle, Marianne Webster, avait épousé un débardeur du nom de Charles-Auguste Lepage le 30 octobre 1921. Donc ça faisait quand même une bonne douzaine d'années là, qu'ils étaient mariés. Mais depuis environ 4 ans, ce qu'on disait, c'est que le couple était séparé. Depuis environ une semaine, Marianne partageait sa vie avec un dénommé Philippe Trottier dans un logement, donc celui qu'on a mentionné tantôt, de la rue Saint-Joseph à Québec. Et le couple venait d'adopter une fillette âgée de 9 mois, rien de moins. Donc ils avaient vraiment l'intention de démarrer une famille. Et la journée fatidique du 26 avril 1933, on raconte que Trottier a fait monter chez lui un cousin. Mais, donc, il recevait de la visite, ni plus ni moins. Mais lorsque des bruits de bagarre ont commencé à se faire entendre, le cousin en question, lui, est descendu à toute vitesse en disant qu'il ne voulait pas se mêler de ça. Mais qu'est-ce qui se passait au juste? La police a été appelée sur les lieux, donc, pour séparer cette bagarre-là. Mais à leur arrivée, malheureusement, il était trop tard. Le corps de Marianne gisait déjà dans une mare de sang sur le plancher de sa chambre. Donc, encore une fois, elle a été assassinée chez elle. Pour entrer dans la pièce, on a dû pousser sur son corps et c'est après qu'on a constaté seulement qu'elle avait le crâne ouvert. Donc, voilà. L'arme du crime a été un objet contondant. Je pense qu'on n'a jamais précisé ce que c'était exactement. Mais dans la chambre, on a aussi remarqué un désordre épouvantable là, qui indiquait qu'il y avait eu probablement une lutte. Ça témoigne d'ailleurs, le call que la police avait eu, dans le fond. Et en plus, le sang avait giclé sur tous les murs. Et dans une main de la victime, on a retrouvé une mèche de cheveux qu'elle avait arrachée à son agresseur. Donc, ça donnait un petit quelque chose à faire analyser au laboratoire de médecine légale. Évidemment, le procès de Philippe Trottier âgé de 29 ans, s'est ouvert le 2 novembre 1933 au Palais de justice de Québec devant le juge Gibson qu'on a vu, qu'on a croisé il n'y a pas si longtemps. Le procès a suscité beaucoup d'intérêt, c'est ce qu'on a dit à l'époque. Et les curieux, il y avait tellement de curieux dans le fond que dans la salle d'audience et tout ça, on avait de la misère à faire entrer tout le monde. Et la défense a fait appeler un témoin, le docteur André Simard, qui lui a déclaré que Trottier, sans être nécessairement un fou, était un débile mental. Vous m'expliquerez la différence, là. Parce que nous, comme Québécois, souvent, le mot « fou » et tous ces termes-là, on les mélange pas mal. On n'est pas très, très, à moins d'être psychiatre et d'avoir étudié dans ça. Des fois, ça peut être un compliment de dire que quelqu'un est fou, là. Il est fou malade parce qu'il est drôle. Mais fou comme ça, non, c'est pas la même signification. Alors, il était pas fou, mais il était débile mental. Bon, bref. Du côté de la couronne, on a fait témoigner 4 médecins qui ont pas approuvé nécessairement le fait qu'il était débile mental, je le dis en guillemets. Mais ils ont dit, eux, que l'intelligence de Trottier était un petit peu au-dessous de la moyenne. Mais selon eux, selon leur opinion, il n'était pas un aliéné pour autant. Et surtout qu'il savait faire la différence entre le bien et le mal. C'est souvent tout ce que veut savoir la justice dans ça. Finalement, les jurés ont délibéré une quinzaine de minutes avant de déclarer Trottier coupable. Et, comme on peut s'y attendre, le 27 avril 1934, eh bien, Philippe Trottier a été pendu pour le meurtre de sa nouvelle conjointe, Marianne Webster. Le 14 mai 1934, c'est une dénommée Graziella Vien, qui était âgée de 29 ans, qui était à son tour victime d'un conjoint non suicidaire. L'action se passait à Montréal. Dans l'après-midi du 14 mai, la police a reçu un appel l'informant qu'une auto de marque Pontiac était stationnée sur la rue Saint-Dominique et qu'elle n'avait pas bougé depuis la nuit. Ouh, c'est grave. Sur les lieux, les policiers ont découvert le cadavre d'une femme derrière le siège arrière. La victime avait reçu 4 projectiles d'armes à feu en pleine tête, à angle droit sur le côté gauche. On a rapidement arrêté Joseph Alizero, le propriétaire de l'auto, c'était pas dur à faire le lien, et Armand Depelto, l'ami intime de la victime qui vivait avec elle. Donc, c'était son amant. D'après ce que je comprends, c'est Armand Depelto qui était son amant. La mort remontait à une vingtaine d'heures. Il semble que la victime aussi avait pour habitude de fréquenter plusieurs hommes en plus d'avoir ses habitudes dans certains hôtels. Alors, vous en déduisez quoi? Je pense que j'ai pas besoin de réfléchir à votre place. On en a vu des cas comme ça. Et c'est assez évident qu'elle faisait partie d'un certain milieu interlope ou pègreux, comme on dit, dans certains milieux. Selon le registre de l'État civil qui a été recherché par le Petit Journal à l'époque, Graziella avait épousé un dénommé Rondeau, duquel elle était divorcée. Et la jeune femme, qui n'avait pas encore 30 ans, serait née le 2 octobre 1905. L'enquête a par la suite conduit à l'arrestation de Joseph Alizero, comme on a dit, un homme jaloux, né lui aussi en 1905. Son procès s'est déroulé du 17 au 22 septembre 1934 devant le juge Louis J. Loranger à Montréal. C'est maître Wilson Proulx qui a assuré la défense de l'accusé alors que la couronne, elle, était représentée par maître Gérald de Fauteux. Dans son adresse au jury, le juge a rappelé que les empreintes digitales trouvées sur l'automobile étaient de toute évidence celles d'Alizero, donc de l'accusé. Si le jury acceptait les témoignages du docteur Fontaine et de M. Laflamme, que l'accusé possédait un revolver de calibre 32, qu'il était extrêmement jaloux et qu'il avait déjà menacé la victime. Rien de moins. Dans ce cas-ci, la présence des empreintes digitales a joué un rôle quand même important, parce que Eugène Laflamme, qui étudiait les empreintes depuis maintenant 31 ans, c'est quand même pas rien, ça veut dire depuis le début du siècle, on avait des experts ou des gens qui s'intéressaient à tout ce que les empreintes digitales pouvaient avoir à nous révéler. Lui, il a expliqué sous serment que celle de l'accusé avait été retrouvée dans le sang relevé sur l'automobile. Étant donné l'époque, bien, le docteur Rosario Fontaine, lui, Rosario Fontaine, c'est la première fois qu'on le croise, en tout cas, dans les féminicides. Mais je vous le dis tout de suite, c'était le jeune protégé de Wilfrid de Rome. Donc, c'était un peu ça va devenir son successeur. Et le docteur Fontaine, de son côté, a expliqué que les chances de retrouver deux personnes avec les mêmes empreintes étaient de 1 sur 64 milliards. Rien de moins, mes amis. Quant à celle retrouvée sur la scène de crime, on y avait relevé 17 points de concordance avec les empreintes de l'accusé, donc ce qui était suffisant pour être valide. Au cours de l'après-midi du 21 septembre, le jury a délibéré durant une heure et demie avant d'annoncer son incapacité à prendre une décision. Donc, on se retrouvait devant un jury qui n'arrivait pas à une décision unanime. Et c'est avec un visage angoissé que l'accusé a écouté attentivement les paroles du juge qui, lui, a insisté auprès des jurés. Et ils ont renvoyé, continué leur délibération en voulant dire « Non, vous êtes capable de faire un effort et de me terminer ça. Essayez de vous entendre. » Et finalement, les jurés sont revenus au matin du 22 septembre vers 10h20 avec un verdict de culpabilité. Donc, la stratégie du juge avait fonctionné. Les avocats de la défense ont tout de suite annoncé là, qu'ils iraient en appel de ce jugement-là. Et pour sa part, ben, Ali Zero, lui, le fameux condamné, a répondu que « Je suis innocent du meurtre de Graziella Vien. » Bon, un autre qui se proclame innocent. Mais, comme vous le savez, probablement, les prisons sont remplies d'innocents. Après le prononcé de la sentence qui a fixé l'exécution au 11 janvier 1935, il y a deux gardes qui se sont chargés d'amener le condamné jusqu'à la prison de Bordeaux. Un décret du 26 mars a reporté la date de l'exécution, ce qui n'a pas empêché toutefois la pendaison d'Ali Zero, qui s'est effectuée le 3 mai 1935 à la prison commune de Montréal, sous la supervision du bourreau Ellis. Ici, je vais revenir sur le cas de la victime, Graziella Vien. Donc, qu'elle soit prostituée ou danseuse ou ce qu'elle voudra, c'est pas ça qui est important. C'est important, parce que ça la mettait à risque de un, mais c'est pas le point sur lequel je voulais revenir. C'est qu'elle est une des rares à être assassinée par son conjoint, à avoir été assassinée en dehors de son appartement ou du lieu où elle résidait. Ici, elle a été retrouvée dans la voiture, finalement, de M. Ali Zero. Alors, voilà. Mais, on a dit que le pattern, c'était que les femmes victimes, donc les femmes victimes de féminicide, se retrouvaient presque toujours à être assassinées chez elles. Ben ici, on pourrait parler d'une exception, mais en fait, non, parce que là, on rentre en ligne de compte tout le milieu criminel, de la pègre et tout ça, donc c'est probablement ça qui a fait en sorte que la scène de crime se trouve ailleurs. Il y a plus d'options qui s'ajoutent aussitôt qu'on parle de crime organisé et tout ça, et on va en avoir d'autres aussi plus récents. On va voir là, plus loin dans les années 70 le cas de Denise Vouligny par exemple qui pratiquement a été assassinée pas dans les mêmes conditions mais amenée en voiture dans un certain endroit et assassinée à coup de revolver. Donc voilà, c'est plus des couples que je dirais normaux qu'on retrouve la victime chez elle. Donc, ça ne change rien à tout le profil, si on veut, que ça dessine là, quand on étudie le féminicide. Donc, on pourrait en venir à la conclusion, par exemple, ou à l'idée, en tout cas, ça, c'est sûr que Ça se passe peut-être pas toujours à 100%, mais jusqu'à maintenant, c'est assez tranché. Donc, si une femme est assassinée chez elle, c'est soit le conjoint ou l'ex-conjoint, ou alors, dans une faible proportion, un tueur inconnu qui la spotait depuis un certain temps, comme un tueur sexuel ou un tueur en série, mais ce qui est très rare. Ou à l'opposé, si la victime est retrouvée ou assassinée loin de chez elle, eh bien là, il faut chercher du milieu criminel, quelque chose comme ça. Là, dans le milieu de la pègre, ça ressemble plus à un règlement de compte ou quelque chose comme ça. On va le voir, du cas de Denise Voligny, c'était un règlement de compte parce qu'on avait peur qu'elle parle. Et c'est assez, vous allez voir, c'est assez rock'n'roll cette affaire-là. Et on va survoler un dernier cas ce soir. Hein. Je vous avais dit qu'il y en avait plusieurs. On était encore en 1900, dans les années 30. Cette fois-ci, le 27 août 1935, donc on avance à pas de tortue, c'est épouvantable tellement qu'il y en a. Et inquiétez-vous pas, on va se rendre à des cas plus récents, là. C'est juste que je veux... Bon, c'est peut-être un travail de moine, mais je veux pas en laisser passer un. En tout cas, dans ceux que j'ai trouvés, je pense que les noms de ces victimes-là méritent d'être remis au goût du jour, méritent qu'on les appelle encore par leur nom. Parce qu'à un certain moment de leur vie, elles ont vécu l'enfer. Donc, je pense que ça mérite au moins qu'on parle de leur histoire. Donc, le 27 août 1935, la victime se nommait Jeanne Lemaire. Elle était âgée de 35 ans. Et le drame se passe au 2037 rue Berry à Montréal. Elle a été victime d'un conjoint suicidaire, et on va voir pourquoi, qui s'appelait Armand Marchand. On a des noms étranges depuis, en tout cas pour la prononciation, des fois c'est étrange depuis un certain temps. Bref, ce jour-là, donc dans l'appartement du 2037 rue Berry, c'est là qu'on a découvert le corps de Mademoiselle Jeanne Lemaire. On l'a transportée quand même à l'hôpital où elle a succombé à ses blessures. Donc ça veut dire qu'elle était encore vivante au moment de sa découverte. On a pu conclure ensuite qu'elle avait reçu 13 coups de marteau à la tête, donc on parle d'objets contondants. Son fiancé, Armand Marchand, lui était âgé de 29 ans, donc il était plus jeune qu'elle de 6 ans. Des fois, ça peut jouer un certain rôle dans les circonstances ou la psychologie des personnages. Il a été retenu prisonnier à l'hôpital même parce qu'il avait tenté de s'enlever la vie après avoir commis son crime, et lui aussi en se poignardant. Donc il a utilisé la même arme de crime. C'est un des rares d'ailleurs qui n'a pas utilisé l'arme à feu. Marchand, lui, habitait pas avec la victime. Il habitait au 1843 rue Desjardins. C'est là qu'il résidait avec sa mère. Donc, ce qu'on a pu apprendre par la suite à propos du couple, c'est que les deux se fréquentaient depuis 6 ans, quand même. Et bien qu'il était question de mariage depuis longtemps, Jeanne avait constamment repoussé l'idée de sceller son destin avec lui. Ah! Peut-être parce que Armand était chômeur depuis maintenant 2 ans, ça aussi, ça a pu jouer. Mais, tu sais, je veux dire, juste ça, si elle refusait, c'est parce qu'il y avait peut-être, elle sentait peut-être un petit quelque chose. Mais bref, vous me direz que même si elle sentait un petit quelque chose, ça lui a quand même coûté la vie. En effet. Et de plus, la mère de Jeanne avait conseillé à sa fille de rompre, tout simplement. Mais ça, le nombre de fois que les belles-mères détestent leur jeune, des fois, est-ce qu'on peut se fier à cette opinion-là? Mais bon, faut en rire un peu, mais elle avait probablement ses raisons, mais nous, on ne les sait pas, malheureusement. Et dans la soirée du 26 août, donc la veille du drame, le jeune couple avait passé la soirée chez la mère de Jeanne, et celle-ci se trouvait dans une autre pièce avec des amis. Et à la fin de la soirée, Armand et Jeanne sont sortis dehors pour discuter. Et c'est à ce moment qu'elle aurait annoncé à son amant, si on veut, son désir de ne plus le revoir, de ne plus le fréquenter. Elle a dit « Mon petit pit, c'est fini ce soir ». Et selon la version que Marchand a donnée aux policiers, Jeanne entretenait une correspondance avec un homme qui jouissait d'une excellente situation. Donc, ben, il commençait à penser, lui, qu'il perdait prise, puis il devait se sentir pas mal trou de cul. Pas d'argent, pas d'emploi, alors que l'autre roulait sur l'or, si on peut dire. Donc, il y avait une meilleure situation. Alors, il sentait bien qu'il allait la perdre. Et c'est pour ça que le lendemain, il a décidé, lui, de se faire justice. Et le lendemain, vers 14h, c'est Jeanne qui s'est rendue chez Marchand. La mère d'Armand, vu qu'elle habitait là, elle les a entendus bavarder dans l'autre pièce jusqu'à ce que le cri de son fils perce ses tympans. Il a crié « Ma, c'est fini! » Ça me fait penser à un autre slogan, mais bon, j'espère que Juste pour rire s'est pas inspiré de ce drame-là pour faire son fameux slogan qui a fait le tour du Québec. Bref. Et en arrivant dans la chambre, la mère a constaté qu'il était déjà trop tard. Mademoiselle était pas décédée, mais elle était vraiment mal en point. Et une fois à l'hôpital, bien, c'est pour ça qu'on l'a arrêté là. Marchand lui a passé aux aveux, mais il avait essayé déjà de se suicider. Donc, petite rectification ici, je me suis trompé au début. Jeanne n'a pas été assassinée chez elle, mais bien chez son conjoint. Mais bon, bref, vous aurez compris que un ou l'autre, ils se fréquentaient depuis 6 ans, hein, fait que quand même, c'était un lieu connu. Le procès de Marchand s'est tenu au Palais de justice de Montréal les 16 et 17 mars 1936, devant le juge Charles A. Wilson. Il a été reconnu coupable et pendu le 5 juin 1936. C'était une autre balado de mémoire d'archives. Si vous avez des suggestions à me faire, écrivez-moi à eric.veillette@hotmail.ca. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.